extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Mourir en martyr à l'issue de supplices chinois aussi cruels que raffinés, tel est le sort qu'on pourrait croire réservé à tous les missionnaires et leurs convertis dans une Chine impériale tardive où le catholicisme était officiellement proscrit. Pourtant, rien n'est moins sûr. En explorant l'interdiction de cette religion dans l'empire des Qing, 1644-1911, ce livre fondé sur un vaste ensemble de sources asiatiques et européennes vient repenser les questions de la répression religieuse et de la rencontre jalonnée de tensions entre la Chine et l'Occident. Il dévoile ce faisant l'émergence d'un panasiatisme anti-chrétien au sein duquel repentir et abjuration s'avéraient en réalité les maîtres mots des autorités. L'auteur offre ainsi une histoire inédite du catholicisme en Chine et de ses proches voisins d'Asie orientale. Eh bien, chers auditeurs, c'est à vous que cette histoire est offerte aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Emmanuel Roux, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste d'histoire religieuse et juridique de l'Asie de l'Est entre le XVIe et le XXe siècle, auteur de ce livre donc, Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine, 1724-1860, qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Bonjour Pierre-Emmanuel Roux.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Eh bien, avec plaisir, et Pierre-Emmanuel Roux, je vous propose de partir sans attendre en Asie avec Louis Ducret pour les nouvelles des églises d'Asie. Bonjour Louis.
Bonsoir Duarte.
Alors Louis, c'est une délégation du mouvement des Focolari qui soutient le dialogue et la diversité indonésienne.
Des représentants du mouvement international des Focolari se sont rendus en Indonésie lors d'un voyage plus large en Asie du Sud-Est afin d'y soutenir le dialogue et la fraternité alors que l'unité indonésienne est menacée par l'extrémisme musulman. Par exemple, selon une nouvelle étude faite en mai, plus de 56% des lycéens indonésiens souhaitent voir la charia appliquée dans leur pays. Un des moments clés du séjour des membres des Focolari s'est déroulé à l'université catholique d'Atayama au sud de Jakarta en présence de moins de 250 participants de différents pays de la région Asie-Pacifique. Monseigneur Piero Piopo, nonce apostolique en Indonésie, a invité le mouvement international à développer sa présence dans la société indonésienne afin de soutenir l'unité dans la diversité dans l'archipel. La présidente du mouvement, Margaret Karam, a répondu à cet appel en assurant que, citation, « les histoires entendues ne peuvent qu'enrichir notre mouvement car le dialogue est la voie vers la paix et la fraternité ». Fin de citation.
Alors que les Philippines s'engagent à redoubler d'efforts contre la traite des êtres humains.
Le 15 mai, le Bureau d'immigration philippin et la Commission pour les Philippins à l'étranger se sont engagés en effet à renforcer les activités contre la traite des êtres humains et les migrations illégales, après avoir démantelé une vaste escroquerie en ligne et secouru des Philippins émigrés en Birmanie. Norman Tansinko, commissaire à l'immigration, a notamment signé un accord destiné à remonter la trace des migrants illégaux et sans papier, victime de la traite des personnes. Dans cet objectif, il a souligné l'importance du contrôle de l'immigration. Selon les autorités, les victimes secourues récemment s'ajoutent à plus de 1000 Asiatiques déjà libérés des réseaux d'escrocs, dont les principaux meneurs sont basés au nord de Manille, la capitale philippine. Monseigneur Ruperto Santos, évêque de Balanga et vice-président de la Commission pour la pastorale des migrants, a réagi. Citation. Ces agences de recrutement illégal doivent être fermées, leurs biens doivent être saisis, et l'argent doit être rendu et utilisé comme réparation pour les victimes. Fin de citation. Avec l'une des diasporas les plus importantes au monde, les Philippines sont une source majeure pour les réseaux de trafic humain et sexuel, selon les experts de la lutte contre la traite des personnes. Les évêques philippins ont également souligné qu'ils se sont toujours opposés à cet esclavage moderne. Citation de Mgr Santos, « Les trafics humains sont un fléau majeur de notre société. » Ils ne méritent rien d'autre que des poursuites judiciaires sérieuses et des sanctions sévères. C'est de l'esclavage moderne, a-t-il martelé.
Alors que des religieuses coréennes et japonaises s'engagent à soutenir le dialogue entre les deux pays.
Des religieuses catholiques sud-coréennes et japonaises ont participé à une rencontre régionale à Séoul, où elles ont décidé de travailler ensemble afin de soutenir une culture d'écoute, de dialogue, de discernement, d'assistance et de paix entre les deux pays. Elles ont annoncé cette décision à l'issue de l'Assemblée générale Corée-Japon de l'Union internationale des supérieurs générales qui a eu lieu du 9 au 14 mai au centre de la réconciliation nationale à Paju, près de la capitale sud-coréenne. Une religieuse anonyme qui a participé à l'Assemblée régionale signale que celle-ci a permis aux délégués de mieux se comprendre. Citation, Durant ces temps d'échange, l'attitude positive des confrères japonais et les excuses exprimées pour la réconciliation face à l'histoire ont permis d'adoucir les cœurs en vue d'apaiser les relations entre la Corée et le Japon. Fin de citation. Enfin, les religieux se sont également engagés à prier tous les jours pour la paix en Corée et au Japon. Les deux pays ont traversé plusieurs décennies de relations tendues en raison des atrocités commises dans la péninsule coréenne sous le régime colonial japonais, qui a pris fin après la Deuxième Guerre mondiale. En mars dernier, afin d'améliorer les relations bilatérales, les dirigeants des deux pays se sont rencontrés à l'occasion du premier sommet commun organisé depuis 12 ans.
Merci, Louis Ducret. Et nous avons le plaisir de retrouver Pierre-Emmanuel Roux, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste d'histoire religieuse et juridique de l'Asie de l'Est entre le XVIe et le XXe siècle, auteur de ce livre « Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine entre 1724 et 1860 ». Le livre vient de paraître aux éditions du CNRS ce mois-ci. Alors, Pierre-Emmanuel Roux, vous êtes spécialiste d'histoire religieuse et juridique d'Asie du Sud-Est, on l'a dit. Et bien évidemment, un chercheur ne travaille jamais au hasard. D'où vient ce livre? Quelle place tient-il dans votre parcours de recherche?
Alors, en fait, si, il y a souvent une part de hasard quand on commence à travailler en master ou en doctorat. Il peut y avoir souvent une part de hasard. Et pour moi, c'était une part de hasard. Parce que j'ai commencé à faire de l'histoire à l'université Paris 4, aujourd'hui Sorbonne Université, à une époque où il n'y avait pas d'histoire de l'Asie. Et mon directeur de recherche m'avait envoyé aux missions étrangères de Paris en me disant « Vous allez trouver un missionnaire qui vous permettra de travailler sur la Chine ». Et donc j'y étais allé et on m'avait donné un missionnaire du 18e, fin 18e, début 19e siècle, qui avait fini comme martyr. Et dans les années qui suivent, j'ai eu dans l'idée de développer un peu ce sujet, non pas en m'intéressant aux martyrs, mais en m'intéressant à l'interdiction du catholicisme, un sujet qui finalement a été très peu traité par le passé. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'a occupé pendant une vingtaine d'années et qui finalement a comme conclusion ce livre.
Et alors, ce livre, il commence évidemment dans ce 18e siècle où vous emmenez le lecteur, et précisément en 1724, avec un édit d'expulsion des missionnaires de Chine promulgué par l'empereur Yongzhen. Vous commencez par là et en même temps, vous revenez sur cet usage de prendre cette date comme début d'une étude. Comment replacer cette date dans son contexte et quelle vision vous en donnez?
Alors, en effet, c'est une date qui est importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on place en général le début de l'interdiction du catholicisme. Mais comme vous l'avez bien mentionné, c'est surtout un édit d'expulsion des missionnaires. Et on voit dans les décennies précédentes qu'il y a déjà un certain nombre d'édits qui réduisent le poids des missionnaires, qui leur interdisent le prosélytisme. Et donc, finalement, c'est une sorte d'aboutissement en 1724, en gros, d'un demi-siècle de mesures qui sont déjà antichrétiennes.
Voilà. Alors, je vous cite, afin de mieux appréhender cette évolution historique, ce premier chapitre revient sur 150 ans qui séparent l'arrivée des premiers missionnaires jésuites de ce fameux édit de proscription. Et vous dites, pour ce faire, il convient au préalable de se demander comment évoluèrent l'attitude gouvernementale et la législation à l'égard des groupes religieux hétérodoxes entre les dynasties Ming et Qing. À quoi revient cette évolution et quelle est finalement cette vision de ces groupes hétérodoxes?
Alors, il y a dans l'histoire de la Chine toujours une appréhension des gouvernements face aux groupes religieux et en particulier face aux groupes religieux qui sont incontrôlables. Voilà. Et on voit aux périodes des Ming et Qing, donc en gros à la fin de la période impériale, une sorte de développement de ces mouvements subversifs, ou du moins le gouvernement prend conscience, ou du moins a l'impression d'un développement de ces mouvements subversifs, et donc il va avoir tendance à confondre un peu ces mouvements subversifs avec le catholicisme. Et donc c'est pour ça qu'il y a un lien étroit, donc, que j'aborde dans ce livre, entre ces mouvements subversifs et le catholicisme.
Et alors ça c'est pour le pouvoir, pour la société en elle-même, quelle est finalement la menace de ces groupes? Est-ce que c'est une menace pour la cohérence de la société chinoise en elle-même, ou est-ce que c'est la peur d'un pouvoir que les éléments lui échappent?
Alors, dans la société, le commun des mortels en Chine ne considère pas forcément qu'il y a des sectes. Hein. D'ailleurs, le mot secte est un mot qui est forgé par le gouvernement. Et les gens qui appartiennent à ces supposées sectes ne se disent pas être membres de ces sectes. Hein. Donc, je crois qu'il faut être assez prudent quand on aborde ce sujet.
Voilà. Alors, prudence et précision, c'est peut-être aussi la nuance du titre même, de ce premier chapitre, la proscription du catholicisme au XVIIIe, logique et incohérence d'une répression. Quelle est la logique? Quelle est l'incohérence, Pierre-Emmanuel Roux?
Alors, il y a surtout plus d'incohérence que de logique dans cette proscription. On l'a mentionné à l'instant, il y a cet édit de proscription de 1724 qui est un édit d'expulsion des missionnaires. Et au XVIIIe siècle, la politique du gouvernement contre les groupes religieux subversifs consiste à réprimer les meneurs et à être relativement clément face aux suivants, face aux simples fidèles. Dans le cas du catholicisme, on a une certaine incohérence parce que les missionnaires sont en partie acceptés par le gouvernement puisqu'il y a des missionnaires qui sont au service des empereurs à Pékin, qui le servent pour les questions d'astronomie, pour des questions artistiques. Et vous avez un empereur qui interdit le catholicisme, donc il dit on va expulser les missionnaires qui sont dans les provinces, tout en gardant les missionnaires qui sont à Pékin, et qui sont à quelques pas de la cité interdite. Donc il y a une incohérence qui est très claire de ce point de vue-là. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il n'y a dans cet édit 1724 aucune mesure contre les chrétiens eux-mêmes. Et pendant tout le XVIIIe siècle, il y a une zone, les chrétiens sont un peu dans une zone grise, parce qu'il n'y a pas un édit qui dit « vous êtes interdits », mais ils le sont quand même.
C'est le troisième mouvement de ce premier chapitre, la lente prise de conscience du rôle des convertis. Il y a deux répressions, les missionnaires, les convertis.
Voilà, il y a une répression un peu à deux vitesses. On essaie de réprimer les missionnaires quand on les trouve de temps en temps dans les provinces, parce que évidemment, quand on expulse les missionnaires, ils reviennent par la petite porte. Et il y a deux grandes campagnes antichrétiennes. J'évite de parler de grandes persécutions parce que c'est un terme très connoté, donc je parle plutôt de grandes campagnes antichrétiennes en 1746-1748 et en 1784-1785, où on arrête tous les missionnaires, on essaie de les expulser. Et c'est aussi vers la fin du XVIIIe siècle qu'on commence à se rendre compte que finalement les chrétiens eux-mêmes ont un rôle important dans la survie de leur religion. Et c'est d'ailleurs en parallèle aussi à cette période qu'on se rend compte que les membres de ces groupes religieux subversifs ont un rôle important dans la survie de leur religion. Donc il y a un parallèle entre le catholicisme et les religions. Le catholicisme n'est pas quelque chose à part, évidemment.
Vous remettez aussi en perspective la gestion même politique de la Chine de ce temps, et on pourrait avoir une vision unitaire du pouvoir, il ne l'est pas. Il y a une double vitesse aussi territoriale entre la cour impériale et les provinces, Pierre-Emmanuel.
Évidemment, puisque vous avez un pays qui est immense, la Chine des Qing au XVIIIe, XIXe siècle, c'est un pays qui est encore plus grand que la Chine aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que pour gouverner un pays comme cela, c'est compliqué, et cela est d'autant plus compliqué à cette époque que les membres de l'administration, les fonctionnaires, pour ne pas parler de mandarins, sont relativement peu nombreux. Donc administrer un pays comme cela, un empire énorme comme cela, c'est assez compliqué, et donc il y a forcément un décalage entre la politique décidée à Pékin et la manière dont elle s'applique dans les provinces. Et plus elles sont loin, et plus c'est difficile d'appliquer.
Okay. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel Roux, voilà, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste d'histoire religieuse et juridique de l'Asie de l'Est entre le XVIe et le XXe siècle. Vous venez de faire paraître ce livre aux éditions du CNRS, au Tribunal du Repentir, la proscription du catholicisme en Chine, 1724-1860. Je vous propose d'écouter ensemble un chant chinois à la Vierge Marie, interprété par le groupe Arpa Dei. Et je voudrais introduire ce chant par le témoignage du groupe lui-même, qui dit, je cite... Il y a plusieurs années, nous avons appris ce chant d'un prêtre chinois à Jérusalem. Alors qu'il nous le chantait pour la première fois, sa voix s'est soudain brisée et il a fondu en larmes. Il nous a dit alors, le monde n'a aucune idée de combien nous, les chrétiens, souffrons en Chine. C'est pourquoi, dit le groupe, nous avons enregistré et publié ce beau chant marial dans l'intention de prier d'une part pour nos frères chinois qui sont persécutés à cause de leur foi et d'autre part pour les millions d'entre eux qui n'ont pas encore reçu la lumière de l'Évangile. 恳求神母，中国主保，心中只希望为我传道，小内心中。 Entendre un chant chinois à la Vierge Marie interprété par le groupe Arpa Dei et nous retrouvons Pierre-Emmanuel Roux, maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Il vient de faire paraître aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine, 1724-1860 ». Alors Pierre-Emmanuel Roux, on a abordé la mise en place de ce mouvement de répression et alors vous emmenez le lecteur au 19e siècle avec une partie consacrée à la législation des Qing et ces nouvelles formes de répression du 19e siècle. Pourquoi cette législation, quels en sont les contours et pourquoi cette borne en fait du 19e?
Alors, pourquoi cette borne du 19e siècle? Eh bien, on a un nouvel empereur qui arrive au pouvoir en 1800 et qui est un petit peu moins tolérant que le précédent. L'empereur précédent est resté au pouvoir pendant plus de la moitié du 18e siècle. Le suivant, Jiaqing, a dans l'idée de faire des réformes et de remettre un peu les choses à plat dans son empire. Et d'ailleurs, ces réformes vont être extrêmement importantes puisqu'elles vont permettre à l'Empire de rester en place encore un siècle, hein, jusqu'en 1911. Et dans l'ensemble de ces réformes, eh bien, il y a une petite partie dédiée au catholicisme parce que l'empereur se rend compte que les missionnaires qui le servent à la cour à Pékin, eh bien, ne se contentent pas de rester dans leurs églises et de faire des travaux d'astronomie, de musique et d'art, mais qui sont liés étroitement avec les provinces et qu'ils distribuent des livres et que finalement, ils ne restent pas à leur place, contrairement à ce qu'ils devraient faire. Et donc le gouvernement décide de serrer un peu la vis et de mettre en place une loi antichrétienne en 1811 qui punit enfin les missionnaires de la peine capitale par strangulation et qui enfin décide d'un sort bien clair pour les convertis. C'est-à-dire que les convertis les plus importants vont être envoyés en exil dans l'ouest de la Chine. Mais par contre, s'ils se rédiment, s'ils se repentissent, d'où le titre de mon livre, eh bien, ils peuvent rentrer chez eux sans aucun problème. Et ça va être le point central de la politique antichrétienne, c'est de faire d'amener les chrétiens à se repentir. En termes chrétiens, on dirait apostasier, mais pour le gouvernement, c'est se repentir, revenir dans le droit chemin.
Alors, il y a un procès retentissant de cette période qui est celui du prêtre MEP Auguste Chapdelaine et de la veuve Agnès Cao Guying, je prononce peut-être très mal.
Ouais.
Et un procès à deux temps, deux magistrats, deux postures. Qu'est-ce que révèle ce procès, Pierre-Emmanuel Roux?
Alors, c'est un procès. Alors, le nom de Chapdelaine est un nom presque tabou en Chine aujourd'hui parce qu'il est associé. C'est un prétexte pour les Français pour entrer dans la deuxième guerre de l'opium, donc qui a été un événement assez important dans l'histoire de la Chine à la fin du 19e siècle. Alors, ce procès, il est intéressant dans le sens que ce n'est pas un procès qui est décidé par Pékin. Le procès, d'ailleurs, ne remonte pas à Pékin, comme un certain nombre d'affaires. C'est un procès qui a lieu dans le sud de la Chine, dans une zone qui est très troublée par une révolte qui s'appelle celle des Taiping. C'est la plus grande guerre civile qui ait connue la Chine au 19e siècle et même pendant, on peut dire, à peu près un millénaire. Et le père Chapdelaine est arrêté une première fois et on le laisse repartir en lui disant bon, ne revenez pas, mais évidemment comme tout missionnaire il revient, et comme les fonctionnaires changent régulièrement, son successeur lui est moins tolérant et il semble qu'il le confonde avec les membres des Taiping. Alors il voudrait aussi lui soutirer de l'argent. Et finalement, il l'enferme dans une cage au terme d'un procès et Chapdelaine meurt le lendemain. Voilà, donc c'est un procès qui est un peu assez spécial, qui n'est pas représentatif de ce qui se passe en Chine à cette époque. Mais la plupart des martyrs de cette période de proscription se trouvent dans ces années 1850, dans ce sud de la Chine, qui est en proie à des troubles. Voilà. Alors, dont les affaires ne remontent pas à Pékin.
Alors que la loi antichrétienne a été abrogée.
Alors, la loi antichrétienne a été en partie abrogée à la fin de la première guerre de l'opium. Enfin, du moins, théoriquement, les Occidentaux s'imaginent que la loi a été abrogée parce que l'empereur de l'époque, Tao Guang, en 1846, a promulgué un édit disant que le catholicisme, finalement, est une bonne religion. Néanmoins, il faut que les chrétiens restent dans le droit chemin, qu'ils ne fassent pas de prosélytisme. Et il faut éviter que des membres de sectes subversives ne deviennent chrétiens. Voilà. Donc il faut. Et c'est justement ce dernier point qui est le plus important, parce que avec cette pseudo-autorisation du catholicisme, un grand nombre de membres de mouvements subversifs en viennent à devenir chrétiens pour ne pas être réprimés. Voilà.
Et alors, on poursuit évidemment ce voyage dans le temps avec vous. À l'école du Japon, le piétinement des images chrétiennes Ebumi dans la Chine des Qing, c'est votre troisième partie. Exactement. Je cite Pierre-François Xavier de Charlevoix, dont vous donnez une citation en introduction. Il dit « Mais de toutes les inventions que l'enfer a suggérées aux empereurs du Japon pour abolir la religion chrétienne parmi leurs sujets, on peut bien juger qu'il n'en est point de plus efficace que l'horrible et sacrilège cérémonie que je vais décrire et qui se nomme le Jefumi. Cette pratique, elle va évidemment s'implanter en Chine. Quels en sont les contours, l'intention et finalement l'intensité, Pierre-Emmanuel?
Alors déjà cette pratique, alors c'était une prononciation un petit peu ancienne, aujourd'hui on prononce ça Ebumi. C'est une pratique déjà pour informer le lecteur, l'auditeur, pardon, évidemment. Donc c'est une pratique qui est un peu le symbole de l'interdiction du catholicisme au Japon. C'est-à-dire que tous les ans, on demandait aux Japonais, en particulier à Nagasaki et sa région, de piétiner des images chrétiennes pour montrer qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et les étrangers qui arrivaient à Nagasaki devaient également piétiner ces images chrétiennes. Alors, les Hollandais avaient obtenu de ne pas le faire, mais par exemple, tous les Chinois qui faisaient commerce avec le Japon et qui arrivaient à Nagasaki à cette époque devaient piétiner un crucifix. Et c'est la première chose qu'on demandait en arrivant. Voilà. C'est à la place du passeport, puisqu'il n'y a pas de passeport à cette époque, c'est le droit de passage, c'est de piétiner un crucifix. Donc forcément, ça marque un peu les esprits. Et cette pratique en vient donc à être connue en Chine, en particulier dans les régions côtières. Et au fur et à mesure, elle est connue aussi par le gouvernement, qui au XVIIIe siècle se dit « on va peut-être pouvoir s'en inspirer, c'est intéressant ». Et on voit qu'au niveau local, dans la région, pour simplifier, autour de Shanghai et au sud, on voit à partir des années 1720 que des fonctionnaires demandent aux chrétiens de piétiner. Alors, non pas des images chrétiennes, parce qu'il n'y a pas forcément d'images chrétiennes, mais le crucifix qui est accroché dans la maison ou qu'on a retrouvé, eh bien, on le met par terre et puis on demande de les piétiner. Et au fur et à mesure du temps, cette pratique va évoluer, en particulier au début du XIXe siècle, de manière un peu curieuse, parce que l'empereur Jiaxing, au début du XIXe siècle, dit « maintenant, on va demander aux chrétiens d'enjamber les croix », ce qui, pour nous, n'a aucun sens, hein, mais qui, d'un point de vue chinois, peut avoir plusieurs significations. Quand on enjambe, par exemple, un pas de porte en Chine, enfin, on n'a pas le droit de marcher sur les pas de porte en Chine, on est obligé de les enjamber, parce qu'il y a le dieu du seuil, Et donc, c'est une pratique, disons, qui est importante. De même, quand on, quand il y a des mariages ou des enterrements, on va marcher au-dessus d'un feu. C'est une pratique pour conjurer les mauvais esprits. Voilà. Et donc, quelque part, quand on enjobe ses croix, c'est on conjure les mauvais esprits.
Voilà. Eh bien, conjurer les mauvais esprits, conjurer la religion chrétienne, il faudra le découvrir, évidemment, en lisant ce livre. Merci, Pierre-Emmanuel Roux, voilà, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste d'histoire juridique et religieuse d'Asie du Sud-Est. Vous êtes l'auteur de « Au tribunal du repentir, la proscription du catholicisme en Chine, 1724-1860 », publié aux éditions du CNRS. Au revoir, Pierre-Emmanuel Roux.
Merci encore, au revoir.
Et nous, chers auditeurs, nous poursuivons notre aventure dans Orient Extrême dès la semaine prochaine.